marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il est 13h30 sur France Inter. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
La marche de l'histoire, la Russie à nouveau?
Oui, et même la Sibérie dans l'Empire russe. L'Empire qui s'arrête en 1917, ne froncez pas les sourcils.
Je vous écoute attentivement.
Ça s'appelle la Sibérie, depuis au moins le 16e siècle. Et puis vous avez vu que c'était la Russie, le thème du Salon du Livre.
Oui, et que Fabienne Santès est en direct de Moscou ce soir entre 18 et 20 heures, comme Nicolas Demorand demain matin. Et voilà.
On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
La Sibérie dans l'Empire russe.
Je vous écris d'un pays lointain. On l'appelle la Sibérie. À la plupart d'entre nous, il n'évoque rien d'autre qu'une Guyenne gelée. Mais la dernière maison franchie, on se retrouve dans la forêt de l'âge de pierre, la taïga. Je vous écris du bout du monde. Le proverbe sibérien dit que la forêt vient du diable. Le diable fait bien les choses. Sa forêt au total est aussi vaste que les États-Unis. Il est vrai qu'il a peut-être aussi fait les États-Unis. Lorsqu'il n'est pas occupé à fabriquer des forêts ou des états, le diable vole des âmes. C'est du moins ainsi que les Sibériens ont longtemps compris la mort. Le côté cartésien de la Sibérie, c'est que le voyageur, à l'endroit devant lui, est toujours sûr de se perdre dans une forêt. S'il marche longtemps vers le nord, il trouvera en prime la toundra et la banquise, l'ensemble composant un empire du froid de 11 millions de kilomètres carrés qu'il faut conquérir et transformer, mais d'abord qu'il faut connaître.
Ah, la voix du grand Georges Rouquier dans un film du grand Chris Marker. Ah, le bout du monde. Oui, mais au milieu du 19e siècle, la Sibérie pouvait être vue au centre d'un espace qui, d'un côté, englobait la partie supérieure de l'Asie et du Pacifique Nord et s'apprêtait à absorber le bassin du fleuve Amour. Et de l'autre, en face, avait installé des chapelets de comptoirs en Amérique jusqu'aux portes de la Californie. Il y eut une Amérique russe, faite de deux mondes nouveaux qui se faisaient écho. Plus tard, Saint-Pétersbourg décida de vendre l'Alaska et de donner la priorité des priorités aux Transsibériens qui lia par une ceinture de fer la Sibérie et la vieille Russie. Il reste que longtemps, la Sibérie avait cousiné avec l'Amérique. Quand il s'agit d'apprécier le déroulement de leur conquête, les Russes apprécient modérément le rapprochement avec les Américains. Dans les deux cas, l'extension s'est pourtant faite dans la continuité territoriale et rapidement. Mais les Russes insistent sur l'acculturation des populations autochtones, voire le métissage. Ils compareraient plus volontiers leur manière d'être avec celle des coureurs des bois canadiens du 16e qu'avec la violence du 19e américain. La colonisation de la Sibérie, en tout cas, est vraiment singulière, ne serait-ce qu'à cause des difficultés du climat. Alain disait que le temps qu'il fait est le premier fait historique. Celui qui sévit en Sibérie a fait de la conquête une épopée. Le mot peut être difficilement contesté, quoi qu'on pense des conséquences.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et puis l'épopée sibérienne, c'est le titre du livre que vous publiez aujourd'hui, édition des Sirtes, édition Paulsen. Éric Oesli, bonjour.
Bonjour.
Alors, les Suisses sont souvent prompts à dénoncer la colonisation chez les autres. Non, vous n'employez pas beaucoup le mot colonisation. Vous. Je ne vous ai pas présenté comme l'ancien rédacteur en chef de l'excellent hebdo, regretté hebdo de Lausanne, et le fondateur de l'excellent Temps. De Genève, Suisse donc. Oui, les Suisses sont enclins à dénoncer la colonisation, vous employez presque jamais le mot.
Non, je préfère celui de conquête, parce que précisément l'élément colonisation, je trouve, a un côté un peu restrictif, dans le sens où il se limite finalement au rapport avec les cultures autochtones, qui est certainement un élément essentiel de cette conquête, mais le théâtre, généralement, est bien plus vaste que la simple colonisation.
Et puis vous mettez au premier plan les acteurs de l'épopée. Épopée, c'est aussi votre livre, parce que c'est un vrai chantier, votre livre. Enfin, je ne veux pas dire que c'est en désordre. Je veux dire que ça a pris beaucoup de temps.
Ça a pris beaucoup de temps et ça m'a donné aussi beaucoup de bonheur. Je pense que le mot n'est pas exagéré. On ne fait pas un travail, effectivement, d'une dizaine d'années comme celui-ci sans finalement en faire une partie de sa vie, à proprement parler. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup rencontré de gens. Je n'ai pas travaillé uniquement dans les archives et les bibliothèques. Et j'ai suivi une sorte de feuilleton personnel pour reconstituer ces grands épisodes et ces grands personnages et essayer de faire partager cette passion au public.
Vous avez procédé par rebond et nous allons procéder par étapes, si vous le voulez bien. Enfin, ça sera un survol. Comme a été rapide la conquête de la Sibérie, du moins au début. Première étape, 16e siècle. La Russie, dites-vous, la Russie d'Europe, c'est déjà le plus vaste état d'Europe. Mais il y a le verrou tatar qui empêche le franchissement de l'Oural, et de l'autre côté de l'Oural, on ne sait pas trop ce que c'est, terra incognita, ça a un nom, au milieu du XVIe.
Ça, disons, on appelle cette limite un peu la ceinture de pierre, hein, l'Oural qui est pourtant finalement un massif assez modeste quand on l'observe aujourd'hui. On a cette ceinture de pierre et effectivement au-delà, un inconnu. Donc le mot Sibérie, Sibir, une sorte d'élément générique pour désigner cet inconnu. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on est au milieu du 16e, l'Amérique est déjà relativement bien connue, elle est apparue sur les cartes européennes, on a de nombreux récits de voyageurs, et 50 ans après cette découverte de l'Amérique par les Européens, on a en fait toujours rien sur l'autre partie du continent que nous habitons. Donc j'ai trouvé cet élément assez mystérieux. Comment se fait-il que l'expansion et la découverte aient été freinées pendant si longtemps, et puis finalement, qu'est-ce qui la déclenche ?
1562, Ivan le Terrible, vous voulez dire le redoutable. En russe, c'est le redoutable.
En russe, c'est le redoutable et l'expression terrible a effectivement peut-être une connotation un peu trop précise.
Il parvient enfin à faire tomber Kazan, la capitale des Tatars. En témoigne une basilique au pied du Kremlin, qui a été érigée en action de grâce. Et il va accorder un privilège à une famille entreprenante qui va permettre de bondir de l'autre côté de l'Oural.
Les Stroganov et la conquête de la Sibérie par M. François-Xavier Coquin.
L'initiative de cette conquête devait revenir très largement à une puissante famille de commerçants et d'industriels, propriétaires de salines et de concessions forestières, les Stroganov. Pourvus d'un riche passé de défricheurs et de colonisateurs, ils avaient obtenu du tsar en 1558, puis de nouveau en 1568, l'exploitation de vastes terrains dans la région de Perm, au pied même de l'Oural. C'était là, sur les bords de la Kama, que les Stroganov avaient demandé l'autorisation d'abattre les bois, de labourer les terres, d'y établir des hommes non soumis au servage, de fonder des salines et de produire du sel sur ces localités sauvages, sur les rivières et sur les lacs. Faveur exceptionnelle, le tsar, non content de leur déléguer tous pouvoirs administratifs et judiciaires, leur avait même consenti, vu l'insécurité de la région, le droit de construire des forts et d'entretenir une petite force armée. C'était là une charte qui n'était pas sans rappeler les chartes coloniales, en usage vers la même époque parmi les puissances européennes.
Charte coloniale, vous avez bien noté le mot, Eric Huxley. Produire du sel, enfin, il faut fournir aussi de la fourrure, de la zibeline. Alors que nos auditeurs amis des animaux se bouchent les oreilles, ça se chasse comment? Ça se dépèce comment, la zibeline?
Alors, ça se chasse soit par le piège, avec évidemment le risque d'abîmer la fourrure. Donc, ces pièges doivent être particulièrement affûtés. Et les chasseurs et trappeurs russes qui vont finalement pourvoir la famille Stroganov Stroganov en zibeline, et bien d'autres ensuite, puisque ça va devenir la première matière première de la Russie, ont rapidement recours en fait aux meilleurs chasseurs possibles que sont les autochtones. Les autochtones ont l'habitude de chasser à l'arc et à la flèche, mais à toucher les ziblines à la tête, de manière à pouvoir préserver la fourrure. Et ainsi, la zibeline va effectivement devenir la première matière première russe, un peu à l'équivalent de ce que sont aujourd'hui le gaz et le pétrole.
Il faut que nos auditeurs, amis des animaux, sachent que les populations autochtones ne sont pas nécessairement sans effet sur la nature et sur le monde animal. Il y a les fourreurs, les trappeurs et les cosaques.
Alors, les Cosaques vont suivre, en fait, le mouvement de démarrage vers la Sibérie se fait à partir de la fin du XVIe siècle. Et effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas l'État russe qui, tout d'un coup, décide de s'étendre et d'envoyer ses armées ou ses bataillons au-delà de l'Oural. Ce sont effectivement les trappeurs, ce sont les chasseurs qui vont, en fait, progresser vers l'Est, et ils sont suivis très régulièrement par des Cosaques qui assurent en fait des sortes de petits fortins en bois qui deviennent des centres administratifs et surtout des centres fiscaux, parce que l'État a rapidement compris qu'on pouvait tirer un grand parti de cette conquête à travers le fisc. Donc finalement, on transforme les autochtones en contribuables. Ce sont d'abord et avant tout des contribuables.
Ça porte un nom d'ailleurs.
L'impôt s'appelle le Yassak. Et effectivement, les autochtones, parce qu'ils sont des contribuables, doivent également être protégés. On va évidemment éviter de les massacrer. Et de cette manière-là se constitue cette avancée. D'abord les trappeurs, ensuite les Cosaques qui viennent créer leur fortin, et juste derrière les missionnaires. On a un peu le scénario d'avancée.
Il n'a fallu que 60 ans pour passer des crêtes de l'Oural, deuxième étape, aux côtes du Kamchatka. Mais quand on parvient, je vous cite Eric Ostly, à l'océan Pacifique Nord, il y a fort à faire pour le traverser. 1716, un vaisseau de haute mer est enfin construit et mis en place et jeté à l'eau sur les côtes pacifiques. 1725, commence sous l'égide du tsar la première expédition d'un nommé Bering, qui est un Danois. Alors ça va durer des lustres, les expéditions de Bering et de...
Alors c'est deux fois les expéditions de Bering, mais qui est accompagnée par une série de scientifiques, dont un personnage tout à fait extraordinaire, très haut en couleur, qui s'appelle Georg Wilhelm Steller, un jeune Allemand qui a à peine la trentaine. Alors, je crois que ça vaut la peine de s'imaginer un peu ce que représentent ces expéditions, parce qu'en réalité, la Russie entreprend à ce moment-là l'inventaire de ces terres inconnues. Et elle le fait par des expéditions qui vont être les plus importantes de l'histoire. Elles vont coûter extrêmement cher au budget russe. Elles vont durer finalement plus d'une quinzaine d'années. Et effectivement, elles vont mener à la découverte et à la cartographie de l'ensemble des côtes, mais aussi, on ne peut pas parler autrement que d'inventaire de tous les peuples qui y sont, de leur histoire, de leur langue, des fouilles archéologiques, de contacts avec le Japon, de la découverte des contacts commerciaux avec les Mandchous, et finalement du passage du Pacifique pour aller jusqu'à l'Alaska.
Oui, enfin, vous dites ça comme si c'était simple. Ce malheureux Bering, en 1741, il atterrit, si je puis dire, atteint du scorbut, comme beaucoup de ses petits camarades, dans une île. Et cette île va porter son nom après que lentement il sera mort dans de grandes douleurs. « Je suis allongé là comme un idiot », dit un film danois de Seyer Andersen.
Oh yeah. Fortæl.
Bon, je vais vous raconter.
Det hele som hurtigt fortalt, hvis man springer detaljerne over.
Ça ne prendra pas trop longtemps si on saute les détails.
8 années. 8 années. Det er 8 år siden vi forlod Sankt Petersburg med 600 mand.
8 années depuis que j'ai quitté Saint-Pétersbourg avec 600 hommes.
Gennem Sibirien.
On a traversé la Sibérie.
Finder Amerika.
J'ai trouvé l'Amérique.
Og nu sidder jeg på en ø.
Et voilà où je me trouve maintenant, sur une île.
Og det gode skib Sankt Peter.
Le bon navire Saint-Pierre, réduit en bois d'allumettes par la mer.
Il a découvert, redécouvert l'Amérique.
Il a redécouvert l'Amérique, ou il l'a découvert par le Pacifique. Grosso modo, c'est une deuxième découverte. Le moment de cette découverte est aussi un élément très méconnu de l'histoire. Il faut s'imaginer ce vaisseau de Bering qui tout d'un coup voit l'Amérique, et il a sur son pont ce scientifique allemand qu'on qualifierait aujourd'hui de caractériel, qui est un peu le monsieur je sais tout, qui donne des leçons aux matelots sur la manière de naviguer. Et quand il voit l'Amérique, après 10 ans de préparation, naturellement, il veut absolument descendre. Bering, qui connaît le personnage, se dit il va pas remonter, lui interdit d'abord de descendre à terre, et puis ensuite le condamne à limiter son séjour à la corvée d'eau. Steller, on a la description par ses compagnons de voyage, descend de la chaloupe, saute dans l'eau pour toucher l'Amérique, court, et pendant en réalité 10 heures, dont 6 de collecte, il va trouver 160 espèces nouvelles, végétales et animales, qui aujourd'hui se retrouvent bien sûr dans l'ensemble des registres des différentes spécialités, avec le nom Stellari derrière, le jet de Steller, la truite de Steller, l'aigle de Steller.
Et la vache de mer.
Et la vache de Steller. La vache de Steller va être découverte un peu plus tard, au moment après le naufrage dont on vient d'entendre parler. Voilà. Et ils sont sur cette île, et alors que l'équipage se demande comment sortir de cette île, puisque leur navire a été fracassé sur les récifs, Steller, l'Allemand, toujours, continue à disséquer, à imaginer, et il découvre un animal dont il sera le seul scientifique à assurer l'existence, puisque cette vache de mer, qui fait plusieurs tonnes, et entre 8 et 10 mètres de long, et qui, on peut dire, paît en troupeau le long du rivage en se nourrissant d'algues, et bien cette vache de mer qu'il va découvrir, disséquer, analyser, va en fait disparaître dans les années suivantes. On sait aujourd'hui qu'elle existe grâce à Steller et grâce aux fouilles qui ont été évidemment ultérieurement accomplies.
Ainsi, amis des animaux, disparaissent la zibeline, puis la vache de mer. Alors on continue à bond et à rebond dans ce récit de votre épopée sibérienne, un livre qui paraît chez Paulsen et au CIRT, Eric Oesli. Et nous voici maintenant en 1783, on va entendre parler de la tsarine. Oui, parce que un des axes de votre observation, c'est quelle est la part de l'administration pétersbourgeoise, quelle est la part de l'initiative. Ça se contrebat souvent.
Oui, et en réalité, l'essentiel finalement des étapes de cette conquête se font précisément sur l'initiative de Privé, les trappeurs au départ, ensuite effectivement des Cosaques, et ensuite les très grands marchands sibériens qui vont être en fait les acteurs de cette conquête.
Nouvelle étape, 1783, la tsarine Catherine II est assez occupée à l'ouest. Bon, mais enfin, elle s'occupe parfois un peu de l'est, et elle va confier, conférence de Louise Weiss, une mission ou un privilège à une compagnie hardie, celle de Chelekhov.
Ivre des libertés que lui donnait le statut nouveau des marchands, Grégoire Chelekhov arma 3 vaisseaux au nom pittoresque. Les trois saints, l'archange Saint-Michel, et enfin troisième bateau, Siméon, l'ami de Dieu, et Anna, sa prophétesse. Il partit d'Okhotsk le 16 août 1783 avec 192 hommes. Il perdit le Saint-Michel en sortant du port, hiverna sur l'île de Bering, repartit en 1784, perdit le Siméon dans les brouillards des Aloétiennes et aborda la grande île de Kodiak. Les indigènes tentèrent de le repousser, mais une éclipse de soleil servit opportunément ses desseins. Épouvantés par l'obscurité dont Chelekhov se vanta d'être l'auteur, les indigènes se soumirent. Un village russe s'éleva bientôt sur une des meilleures baies de l'île. Le Siméon réapparut au bout de 6 semaines et, au miracle, le Saint-Michel au bout de 3 ans. Les Russes explorèrent l'île et le continent, fondant des forts de traite, notamment sur le golfe de Cook, le fort Alexandre, ainsi nommé, en l'honneur du petit-fils de l'impératrice. Ils descendirent même jusqu'au 40e parallèle vers la Californie.
Au miracle, donc, Chelekhov hiverne d'abord dans l'île où est mort Bering, et il va plus loin, et puis il meurt. Au miracle, sa veuve prend le relais, fait un monument de 3 mètres de haut, on n'a jamais vu chose pareille à Irkoutsk. Et puis, après l'effacement de la veuve, il y en a un autre et encore un autre. Au miracle, et voici qu'au bout du compte, il y a un chapelet de comptoir russe en Alaska.
En Alaska, et j'espère que les amis des animaux ont toujours les oreilles bouchées, parce que on est parti là, cette fois-ci, à la conquête de la loutre de mer, qui est, en termes de fourrure, est encore supérieure à la zibeline. Donc cette conquête se fait toujours, on va dire, au rythme de l'extinction des espèces qu'on pourchasse. Et lorsque les Russes arrivent en Alaska, ils vont effectivement progressivement descendre le long de la côte pour poursuivre cette loutre de mer, avec un problème permanent, c'est comment faire pour approvisionner les colonies, les petites colonies russes, qui restent très modestes. Hein. On parle de quelques milliers de personnes entre les Russes eux-mêmes et les indigènes et les métis qui les accompagnent, pour une raison simple, c'est que la Russie vit toujours sur le servage, donc il n'y a pas de main d'œuvre possible pour une expansion coloniale. Et il faut trouver des moyens pour nourrir cette population et surtout lui éviter le scorbut. Et là va se dérouler un épisode extraordinaire de cette conquête. On va envoyer un navire vers le sud, vers la Californie, pour tenter d'obtenir des vitamines finalement, des fruits et des céréales pour nourrir cette colonie. Le bateau arrive en vue du goulet de la passe de San Francisco et va rencontrer les Espagnols, dont c'est la colonie la plus septentrionale. Et les Espagnols, imaginez la scène, cette rencontre, les Espagnols voient arriver du nord un navire russe. Ils n'ont aucune idée du rapport entre l'Espagne et la Russie en Europe. Les courriers durent des mois. Et ils décident d'interdire l'arrivée du navire qui franchit quand même la passe, là où se trouve aujourd'hui le Golden Gate. Et on a cette rencontre de cet officier russe qui descend à terre dans son plus bel uniforme de chambellan, rencontre les franciscains du coin, la garnison, et va finir par tomber amoureux de la fille du gouverneur espagnol, Conchita Arguello, créant une espèce d'histoire d'amour au milieu de la géopolitique.
Mais vous racontez aussi d'autres rencontres, celles des délégués chinois et des délégués russes sur le fleuve Amour. Parce qu'on est au milieu du 19e, donc le drapeau russe flotte du Kamchatka à l'Alaska, avec ce chapelet de comptoir jusqu'à 150 km au nord de San Francisco. Mais il y a le bassin au sud, là, du fleuve Amour, qui échappe complètement à la puissance russe, sauf que la puissance chinoise est en train de diminuer et qui a peut-être moyen de s'installer. Comme dit Tchekhov, c'est bien intéressant, le fleuve Amour.
Et comment vous les décrire? Imaginez qu'on ait fait du col de Souram la rive d'un fleuve et vous aurez une idée de l'amour. Des rochers, des falaises, des forêts, des milliers de canards, de hérons, toutes sortes de canailles à long bec et pas âme qui vive. À gauche, la rive russe. À droite, la rive chinoise. Je puis, à mon gré, porter les regards vers la Russie ou vers la Chine. La Chine est tout aussi sauvage et déserte que la Russie. Les villages et les postes de garde sont rares. Tout se confond en mon esprit et se brouille. Et comment s'en étonner, Votre Excellence ?
L'entreprise sur le fleuve Amour, c'est largement l'initiative d'un gouverneur entreprenant nommé par Nicolas Ier, maintenu avec de meilleures relations d'ailleurs avec lui par Alexandre II. Et puis, la Russie vient de perdre la guerre de Crimée, 1854. Il y a toujours un phénomène de compensation dans la colonisation. La colonisation arrive comme une réparation. Donc c'est aussi pour ça qu'on va sur le fleuve Amour.
Oui, et se pose à la Russie de l'époque un dilemme, parce que rapidement, on se rend compte à Saint-Pétersbourg qu'on ne pourra pas conserver à la fois l'Alaska et l'Amérique russe et l'Extrême-Orient. Il va falloir choisir.
C'est trop,
et encore une fois, on n'a pas les colons, puisque les serfs sont attachés à leurs terres et à leurs propriétaires. Donc on ne peut pas imaginer ce qu'on a vu en Europe occidentale. Donc du coup, il faut choisir, et le pouvoir russe va choisir de vendre l'Alaska et de coloniser au maximum cette frontière avec la Chine, qui est en fait un empire mandchou. À l'époque, c'est la dynastie mandchou qui contrôle la Chine. La raison aussi de ce choix est due au fait que les Russes craignent énormément la superpuissance de l'époque que sont les Britanniques. Les Britanniques viennent, on va dire, de violer la Chine au cours des deux guerres de l'opium, remontent les fleuves chinois, et les Russes se disent ils vont, bien entendu, ensuite remonter l'Amour et pénétrer au cœur de la Sibérie. Il faut les empêcher. Le seul moyen de pouvoir le faire, c'est de descendre à notre tour et rapidement l'Amour, de le mettre sous le drapeau russe. Mais comme Saint-Pétersbourg n'est pas du tout intéressé par ses conquêtes orientales, par le Pacifique, que à Saint-Pétersbourg on est préoccupé et obsédé par l'idée d'être reconnu comme puissance européenne et qu'on ne veut certainement pas embarrasser la Grande-Bretagne, eh bien c'est le gouverneur local qui prend l'initiative. Et il va le faire de manière extraordinaire. Il va construire une armada de radeaux, de barques, Mouraviev-Mourski, va construire une armada de d'abord quelques dizaines, puis quelques centaines de radeaux, de barques, qui vont descendre le long du fleuve Amour. C'est quand même 4000 km, hein, donc c'est pas une petite promenade, et installer jusqu'à l'estuaire le drapeau russe.
1867, c'est donc le désengagement de l'Alaska, c'est la fin de ce que vous appelez l'Amérique russe, et la Russie va arrimer la Sibérie par une ceinture de fer, le transsibérien. Longtemps, le réseau ferré a été en retard, squelettique, en Russie, et tout d'un coup, là, il y a une aventure extraordinaire qui met la Russie en avance, techniquement.
C'est ça. Et c'est surtout, disons, à nouveau, les considérations géopolitiques qui vont finalement pousser le pouvoir à accélérer. D'abord, précisément, par peur des Britanniques et de ce qu'ils sont en train de construire en Chine. On imagine qu'ils vont s'emparer de l'extrême-orient russe. Et en réalité, au fur et à mesure de la construction de ce transsibérien, c'est le Japon qui va surgir comme véritable adversaire. Le Japon qui va d'ailleurs, par crainte de l'achèvement du transsibérien, décider de l'intervention et de la guerre à Port Arthur. Donc, c'est une course contre la montre entre la construction de ce train et les puissances d'Orient qui sont en réalité en train de recomposer toute la géopolitique de l'endroit.
Juste un mot, c'est une question qui peut peut-être intéresser les Français en ce temps de transformation du réseau français. On ne laisse pas à la seule initiative privée la réalisation d'une œuvre aussi stratégique.
Non, au contraire. Au contraire, le père, on va dire le père intellectuel et politique de ce chantier, le ministre des Finances, Vité, qui défend à l'inverse une politique très bismarckienne, c'est-à-dire en protectionnisme économique, on protège le service public. Il faut impérativement que la Russie dispose de ses propres moyens. Et la Russie a passé par une phase de privatisation catastrophique. Quelques décennies auparavant, en termes de chemin de fer, elle est en train de tirer les leçons de cette expérience et va achever elle-même ce chantier. Avec là aussi un élément intéressant, il a fallu plus de temps aux Russes pour décider finalement de la construction que pour réellement établir la ligne jusqu'au Pacifique.
Le tracé, dites-vous, est un monument à la pierre et à l'acier, et ne parlons pas du convoi des wagons tels qu'ils sont présentés à l'exposition universelle à Paris en 1900.
Ce train, ce n'est pas à Moscou que nous le découvrirons, mais à Paris, où le monde entier s'est donné rendez-vous à l'occasion de l'exposition universelle qui s'est ouverte en avril 1900. Parmi les milliers de divertissements offerts aux visiteurs, un des clous, le mot venait d'être lancé, était au pied du Trocadéro, le pavillon russe, ou plus exactement, le palais de l'Asie russe, ou encore, le palais des confins de l'Empire. C'était une sorte de petit Kremlin renfermant un petit village avec ses isbas et ses églises. La compagnie des wagons-lits exposait également les wagons les plus luxueux qu'elle ait jamais construits, ceux du Transsibérien. Le wagon Louis XVI, le wagon Louis-Philippe, le wagon Chapelle, le wagon Salon de musique, et enfin, un wagon-restaurant où l'on pouvait déjeuner en regardant défiler sur une vaste toile des paysages de Sibérie.
Nous arrêterons, si vous le voulez bien, notre lecture de l'épopée sibérienne. Paulsen, les Sirtes, à cet instant, un peu avant la Révolution. Mais vous continuez, vous, très longtemps, jusque la transformation de l'Arctique aujourd'hui. Le mot colonisation, il vous arrive parfois de l'utiliser pour la période communiste, un peu plus que pour la période tsariste, m'a-t-il semblé.
Oui, parce que la colonisation en termes de déplacement de population et d'occupation du territoire sibérien et arctique fait partie du projet soviétique. Et à partir, en particulier, de l'époque stalinienne, il y a là une volonté de vaincre la nature. Staline dit lui-même, il n'est pas de forteresse qui peut résister aux bolcheviks. Et l'Arctique est considéré comme une de ses conquêtes. On va briser finalement ce verrou également et on va y installer des villes qui sont toujours là, dans le grand nord sibérien, avec parfois des centaines de milliers d'habitants au-dessus du cercle polaire.
Et puis le goulag a fait mieux en matière de bagne que les entreprises de colonisation des Anglais ou des Français en Australie, en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Alors, la plus vaste prison du monde consacrée à un chapitre bien sûr à ce sujet.
Bien entendu avec l'historique des bagnes tsaristes et leur extension, leur développement à l'époque stalinienne. C'est sans aucun doute une des pages tragiques de cette histoire sibérienne.
Merci à vous. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, préparée par Céline Loriou, avec à la technique Ronan Mallet. Et chez vous, Mathieu Bidard.
Oui, on va parler d'une maladie, une véritable épidémie, Nash, la maladie du foie et de la malbouffe.